longue soirée. Piqué dans le frigo, y a tout ce qu'il faut. Cubu, licou, pou, i-o, i-a. Buvez tous les machins, laissez-moi le porto. Cubu, licou, pou, i-o, i-a. Pour remplir le piano, je vais y prendre un bain, ça me fera du bien. Et cave les potes, hola, hola, voilà papa. Et l'idiote, toi donc de la voilà papa. Et dit Auguste, ne fais plus joujou avec le lustre. Et cave les potes, hola, hola, voilà papa. Et Mariotte, toi donc de la voilà papa. Et Cristobal, laisse donc ce service de cristal. Tiens, papa n'est pas seul, qui donc qui l'amène? Cubu, licou, pou, i-o, i-a. C'est tonton Archibald, mémé, Philomène. Bijoux, cailloux, chou, genou, hibou. Je vais en prendre pour mon grade. Fini rigolade, la la, quelle salade. Et t'es des potes, visez papa, visez-moi ça. Comme il faut que trotte avec Diana, hola, hola. Tiens, v'la mémé, grimper sur le dessus de la cheminée. Et t'es des potes, hola, hola, voyez-moi ça. Comme elle gigote, hola, hola, on croirait pas. Qu'elle est vétuste, tiens, la v'la qui s'élance dans le lustre. Ça c'est du vrai trapèze, ça c'est du boulot. Cubu, licou, pou, i-o, i-a. Elle a l'air bien à l'aise, j'y tire mon chapeau. Cubu, licou, pou, i-o, i-a. Oh tonton Archibald, tu jongles pas mal avec le cristal. Et dites les potes, oui les papas, oui les Diana, oui les Charlotte, oui les Didi, oui les papas, où elles sont les filles, oui les papas, où elles sont les filles, oui les papas, où elles sont les filles, oui les papas.
Et dis Bobby, si ton papa tu cherches, ben je vais te le rendre.
Ah mais on est en antenne, excusez-moi. Alors oui, c'est dimanche, c'est 22h, un peu plus, et c'est la causerie. Alors pardon, parce que je sais pas ce que je faisais, je regardais de l'autre côté, la lumière était allumée, l'antenne était déjà là, et pas ma voix, ce qui était étrange. Donc, bonsoir à toutes et à tous ceux qui nous écoutent, et à toutes celles qui nous écoutent. C'est donc que vous n'êtes pas en train de regarder le match de ce soir, ou que vous n'êtes pas dans le stade, et on vous remercie d'être plutôt derrière votre poste de radio. Et ce soir, on a Jean-Yves qui va animer la co-gérer pardon la technique,
c'est ça. Bonsoir.
Et oui, je crois que t'es tout faible.
C'est... bah oui, tout à fait, c'est bizarre, tiens.
Voilà.
Est-ce que là c'est mieux? Bah oui, tiens, c'est mieux.
Et on a Clara, la chef en opératrice en chef de la technique ce soir.
Bonsoir.
Voilà, donc et puis moi Fab, qui suis là au micro. Alors, je vais vous rappeler que La Causerie est une émission totalement interactive et ouverte à vous tous, amis auditrices et auditeurs. Et nous attendons avec impatience vos mails sur lacauseriecanu@gmail.com ou vos commentaires sur le blog à blogs avec un s.radiocanu.org/lacauserie. Et si vous avez vraiment envie, mais nous on n'aime pas trop ça et que vous n'avez que ça sous la main, vous pouvez le faire aussi sur Face de Plouc, vous cherchez La Causerie, il y a une page de l'émission. Voilà, j'ai dit tout.
Voilà.
Hein,
oui, on peut peut-être aussi en profiter pour faire un bisou à Emma.
Bah oui, j'y venais.
qui n'est pas là ce soir et qui nous reviendra sûrement la semaine prochaine.
Théoriquement, c'est même prévu qu'on fasse la prépa mercredi,
en fait.
Donc elle est là la semaine prochaine. Voilà. Mais ne vous inquiétez pas, amis auditeurs et auditrices, un jour, La Causerie sera de nouveau au complet.
Oui, bien sûr. Il ne faut pas avoir peur comme
non,
ça. Des fois, on est en service à deux, des fois, on est en service à trois.
Voilà. Et des fois, on est en service trois pièces, mais ça dépend, ça dépend des jours.
Je savais que ça viendrait.
Bah oui, évidemment. Alors voilà. Et oui, alors moi, je voulais, avant qu'on démarre l'émission à fond, Qu'on rentre dans les sujets prévus dans l'émission. Je voulais refaire un petit coucou donc au petit bazar avec qui on a fait l'émission la semaine dernière fusionnée. Donc on était venu dans leur émission et ils étaient venus dans la nôtre le soir et dire aux auditeurs et auditrices que tout est audible, soit sur le blog de la causerie, soit sur le blog du petit bazar. Donc c'est la même adresse que pour la causerie, sauf que c'est slash petit bazar sans e à petit. Voilà.
À la place de la causerie.
À la place de la causerie, voilà. C'est et donc, ça. N'hésitez pas à les réécouter. Et puis, on attend vos retours.
Ouais, parce que quand même, je veux dire, on a vachement bossé le truc, quoi. On a fait une émission le matin avec un thème. Le soir, elle répondait peut-être un petit peu au thème du matin. Enfin. Ouais, merde, quoi, on a bossé, quoi.
Surtout, on s'est levé, quoi.
Oui, surtout.
Voilà. On va démarrer. Alors, ouais. Ce soir, émission, on le dit avant, un petit peu sur des sujets un peu durs, mais parce que le monde n'est pas toujours rose et plein de bisounours, et parfois, il faut parler de la réalité en face.
C'est vrai. Des fois, les bisous ne suffisent pas à régler les problèmes du monde.
Voilà.
Donc, en fait, ce soir, je vous présente j'avais envie de vous parler d'une BD en fait qui s'appelle Noxolo, qui est aux éditions La Boîte à Bulles dans la collection Contre-jour, une collection qui est spécialisée dans les romans graphiques en noir et blanc. Donc la BD est en noir et blanc
et souvent d'ailleurs des choses basées sur le réel.
Oui, relativement. Ouais. Et donc cette BD, elle est dessinée et scénarisée par Jean-Christophe Morando et elle est sortie en 2013. Hein, donc c'est vrai que je suis pas très très dans l'actualité et en même temps c'est un sujet qui se démode pas malheureusement. Oups.
Oui, c'est
tu as entendu, auditeur, le micro a tapé.
La fenêtre.
La fenêtre, ils vont pas comprendre. Alors, cette BD, en fait, elle est aussi faite en partenariat avec Amnesty International, en fait. Et donc, on nous parle de Naxala, qui est une policière dans l'est de Johannesburg, qui est donc en Afrique du Sud. Et elle est excédée, voire énervée, voire plus, en fait, de voir que certains dossiers, en particulier celui de Noxolo Nogwaza, n'aient aucune suite, en fait. Donc la BD se situe en 2013. L'affaire dont ça parle s'est passée en 2011. Mais je crois que je le précise. Alors en fait, Noxolo Nogwaza, pardon, elle était âgée de 24 ans, mère de deux enfants, et elle a été retrouvée morte en fait le 24 avril 2011 dans un fossé d'écoulement derrière un supermarché. Son corps était lardé d'éclats de verre, le visage défiguré par des coups de pierre portés par des hommes qui l'ont violée et assassinée de fait.
Et c'est dans quel cadre se place cette affaire ? C'est-à-dire, c'est un viol correctif, c'est ça ?
Ah oui, alors justement, alors dans le roman, en fait, la première page en fait de la BD, c'est on va te montrer que tu es une femme. Donc effectivement, ça rentre dans cette logique que certains hommes, en tout cas, ont développé, qui serait de violer les lesbiennes afin qu'elles adoptent une sexualité hétérosexuelle, en fait. Enfin bon, donc voilà, donc c'est quelque chose qui est assez fréquent, allons-nous dire. Donc voilà, et en fait, donc 2 ans après les faits, y a toujours rien, en fait, tout le monde s'en balance assez fortement. Et donc tout ça, en fait, elle s'est fait tuer tout ça, justement, effectivement, parce qu'elle était donc lesbienne. En fait, la BD, elle nous montre les difficultés, en fait, des familles, des assos et même des keufs, en fait, qui veulent régler ces affaires-là, enfin en tout cas qui veulent avoir une reconnaissance de la victime et de la raison en fait de la mort. C'est-à-dire qu'on reconnaisse le fait que sa sexualité a été la raison en fait qu'on la tue.
Ce qui est intéressant de voir, c'est bon, la BD on parle pas, on en a parlé avant, voilà, c'est qu'elle avait déjà 2 enfants, donc on peut déjà présupposer que, alors soit c'était pas la première fois malheureusement qu'elle était violée, soit c'était qu'elle avait trouvé un moyen d'avoir des enfants en tant que lesbienne, mais compte tenu du climat sud-africain, on a quand même des doutes, ouais, sur le fait que ce soit une PMA qui soit super bien passée, et du coup ça met déjà les critères de cette victime, mmh, en avant, en disant que c'est c'est sous-entendu dans la BD que c'est sûrement pas la première fois qu'on s'en prend à elle pour cette raison-là.
Quoi. Effectivement, il y a des chances, mais effectivement, il n'y a pas la réponse, en tout cas, dans la BD, en fait. Et en fait, tout ça, ça se passe quand même dans le cadre de l'Afrique du Sud, cette nation arc-en-ciel, qui au final, au niveau des lois, c'est au niveau des lois LGBT, on va dire, pour l'égalité des gens.
Même d'ailleurs des lois sur l'égalité tout court.
Sur l'égalité, général. Effectivement. C'est un des pays quand même qui est vachement progressiste. Et qu'au final, parce que depuis 2006, en fait, en Afrique du Sud, il y a le mariage, le droit à l'adoption et le service dans l'armée qui ont été légalisés pour les homos. Et donc, ça fait c'est le premier pays d'Afrique du Sud et le cinquième au monde à avoir adopté de telles avancées, quoi.
C'est aussi un des premiers pays de la zone africaine à avoir reconnu l'égalité parfaite homme-femme.
Ben oui.
C'est-à-dire qu'il y a le progressisme en Afrique du Sud est affiché, en tout cas au niveau de l'État, de façon extrêmement importante, vu que c'est un des fondements de l'État sud-africain après l'élection de Mandela.
C'est ça, et au final, ce que ça montre, c'est qu'au final, on a beau avoir, ça a beau être un pays qui a des lois, génial, quoi, on va dire, sur le plan de l'égalité. Au final, à côté de ça, s'il n'y a pas de mobilisation de ceux qui sont censés défendre et protéger, en tout cas appliquer la loi, tu peux avoir n'importe quelle loi, il n'y a rien qui se passe, quoi. Et au final, dans la BD, il y a vraiment de ça, parce qu'on voit cette policière qui se bat, toute seule, quoi. C'est-à-dire que. On la prend d'ailleurs pour une lesbienne, parce qu'obligatoirement, si tu cherches à défendre cette cause, c'est que forcément t'en es aussi. Et donc, c'est tout ça qui est démontré, c'est que le reste, ils en ont rien à foutre. Et voir au-delà du rien à foutre, je pense qu'il y a même une bonne partie qui appuie ce genre de crime, quoi.
Parce qu'il y a un fond sociétal fort quand même en Afrique du Sud, où tu peux avoir des lois, comme tu disais, tu peux avoir des lois qui sont promulguées. Si tu n'as pas de changement de la société dans sa profondeur, une loi, ça reste un morceau de papier. Je veux dire, si les policiers sont majoritairement homophobes et patriarcaux, en gros, s'il y a une lesbienne qui est violée et tuée, on s'en fout, quoi. Enfin, pour être clair, c'est un peu le fond du truc, quoi.
C'est ça.
Et y compris des femmes qui peuvent intégrer cette vision de la société.
Effectivement, faut pas l'oublier. Ce qui est intéressant aussi, c'est que dans la BD, en fait, à la fin, vous avez un mot aussi de Marc Lévy.
Ça surprend toujours.
Ouais, mais son positionnement, ses interrogations sont vachement intéressantes sur le résultat de l'exclusion. Et au final, il dit que ça dépasse même la cause LGBT. Et ça m'a fait penser, au final, j'avais vu une expo sur les gens qui. En Afrique aussi, les albinos,
oui.
Qui au final sont ostracisés, qu'on exclut de la société, et donc au final c'est toujours pareil, quoi. C'est toujours une idée de la différence, qu'est-ce qu'on en fait.
Au nom d'un ritualisme ancestral, qui est juste hallucinant. Quoi.
Et donc à la fin de la BD, vous avez donc un texte de Marc Lévy, et un autre texte aussi d'Amnesty International.
Je vais juste te dire quand même, parce que je n'aime pas Marc Lévy en tant qu'auteur, très clairement. Par contre, je voudrais quand même souligner qu'aux côtés d'Amnesty International, il fait un énorme boulot.
Il fait un boulot, quoi.
Et voilà. L'auteur, je trouve que en termes de militant, en tant que il y a rien à dire. Il fait vraiment un travail assez impressionnant, quoi.
Ah mais je pense qu'on a le droit de pas aimer les œuvres d'un artiste.
Il y a un côté quand on n'aime pas l'œuvre, on n'aime pas la personne. Or moi, je peux très bien. Je tenais à souligner que même si j'aime pas ce qu'il fait, là, je lui reconnais quand même. Je sais qu'il a financé notamment certaines BD ou livres d'Amnesty International pour qu'ils puissent sortir. Je sais pas si c'est le cas de celle-ci, mais en tout cas, c'est intéressant de voir qu'il s'implique vraiment. Fortement.
Et pour revenir, je voulais revenir sur la différence dont tu parlais sur le fait d'avoir des lois qui sont très progressistes et au final avoir une société qui et donc il y a à la fin donc de cette BD il y a un texte qui suit que je vais vous lire en fait. C'est sur le papier l'Afrique du Sud a valeur d'exemplarité. Mais sans la volonté de ceux qui doivent les appliquer et les faire respecter, les lois ne suffisent pas à empêcher la barbarie des hommes. Malgré ce statut de précurseur sur l'égalité des minorités sexuelles, l'Afrique du Sud reste impuissante à juguler la véhémence de ses citoyens qui s'opposent à la politique progressiste de leur pays. Le Conseil national des sciences humaines publia en 2008, un rapport d'opinion aux conclusions édifiantes. L'étude d'envergure nationale montra que la majorité des participants considéraient les gays et les lesbiennes comme des non-africains. Vasureddy, l'un des organisateurs de cette enquête, expliqua que pour bon nombre de gens, l'homosexualité était un fléau importé par les colonisateurs européens pour détruire la culture africaine. Et ceci n'était pas l'opinion d'un groupe d'ultra-conservateurs, mais celle d'une majorité dominante. Le même rapport publié cette année témoigne que plus de 80% des personnes interrogées considèrent l'homosexualité comme nuisible à la société. Donc effectivement, enfin, même si après, on peut toujours mettre aussi des doutes sur les techniques, etc., des enquêtes d'opinion.
Oui, ben enfin, c'est une enquête sociologique, donc on sait que c'est pas fait comme un simple sondage sur un coin de rue, quoi. Donc voilà.
Donc voilà, enfin, donc ça prouve bien que le boulot, il doit être encore, enfin, il doit être aussi fait sur différents plans. Il suffit pas d'avoir des lois. Il faut aussi se battre pour les défendre, pour défendre une éthique ou des valeurs, etc. Donc voilà, enfin. Pardon, vas-y.
Moi je voulais juste te dire que ce qui est intéressant dans ce que tu viens de lire, c'est que ça souligne tout un courant qui est en ce moment de gens qui appuient même cette croyance comme quoi l'homosexualité serait quelque chose d'importé, mais y compris des occidentaux qui disent oui mais quand même l'homosexualité c'est pas quelque chose qui existe là-bas. Alors je voudrais juste rappeler un petit fait historique, que le mot homosexualité date du 19e siècle et que avant en Europe, on n'avait pas de mots pour dire homosexuel. Et c'est pas parce qu'une société n'a pas de mots ou de, on va dire, de désignation spécifique que l'homosexualité n'existe pas. Parce que très clairement, elle a toujours existé, elle existera toujours. Et les sociétés africaines ou les sociétés d'abord n'importe où dans le monde ne sont pas étanches ou hermétiques, où il n'y aurait pas une sorte de différence génétique qui ferait que l'homosexualité n'existerait pas dans les mêmes proportions qu'ailleurs dans le monde. Et le problème, c'est que quand des Occidentaux viennent à dire « Oui, mais la notion d'homosexualité ou les mots LGBT ou ce que vous voulez, ce sont des importations occidentales », le problème que ça pose, c'est que ça appuie très très fortement du côté des réactionnaires là-bas, qui disent, mais vous voyez, mais même les occidentaux le disent. C'est-à-dire que ce qu'on peut dire dans un cénacle universitaire, dans des petites revues, parce que on est blanc, riche, et que finalement on n'a pas grand-chose à perdre à écrire des conneries toute la journée, eh ben finalement ça a des impacts un petit peu plus difficiles sur des gens qui sont pauvres et homosexuels dans des pays où on considère que ce sont des gens à tuer. Et que tant qu'on ne se posera pas la question de se dire que nos écrits et nos dires peuvent avoir des impacts très négatifs parce qu'on ne les maîtrise pas, et bien voilà, ça donnera le fait qu'on appuie les côtés les plus réactionnaires dans des pays où on aurait bien besoin que ce soit l'autre côté qui soit appuyé.
On appuie les thèses les plus réactionnaires et puis on appuie le fait d'un différentialisme.
Oui, tout à fait.
Et que, à mes yeux, le différentialisme, je ne sais même pas ce que ça veut dire. Je vois pas ce qui me différencie. Après, il y a des différenciations de société, etc. Il y a des différences de société, mais le sociétal, c'est quoi? C'est politique, en fait. C'est une construction. Donc, elle est faite par vous, par nous, par moi, par tout le monde, en fait. Donc, quand il y a des gens qui luttent de l'autre côté de la planète, plutôt que de les enfoncer en disant... ils sont colonisés ou je ne sais pas quoi.
Occidentalisés. C'est le mot à la mode.
Comme ça peut s'entendre dans des soi-disant milieux progressistes. À un moment donné, c'est juste leur cracher à la gueule, quoi. Parce que ces gens-là, effectivement, ils risquent la mort. Et d'ailleurs, ils en payent le prix. Et qu'à un moment donné, il faudra arrêter ces conneries et peut-être revenir à des valeurs qui sont peut-être un peu plus fondamentales, qui pour moi sont justement l'internationalisme, en fait. Que ça doit être pour les ouvriers, en fait, pour tous les opprimés, quoi.
Tout à fait.
Donc, c'est une. Pardon.
Non, vas-y. Il y a quelqu'un qui veut rentrer, ouais. Et qui fait des coucous et il est fermé dehors, alors on va aller lui ouvrir. Mais juste dire quand même quelque chose que je voulais ajouter, c'est qu'il y a un documentaire qui s'appelle Global Gay, il y a un livre qui s'appelle Global Gay, et dans ces documentaires-là et dans ces visions-là, vous verrez qu'il y a des gens qui disent, oui, il y a des choses qui ont été importées par les Occidentaux en termes de colonisation. Mais en fait, ce qu'ils ont apporté en premier, c'est les lois contre l'homosexualité, c'est pas l'homosexualité, c'est-à-dire que c'est l'homophobie qu'ils ont importée. Donc ça, je vous invite à vous plonger. Tu rappelles juste la BD ?
Oui, Noxolo, c'est aux éditions La Boîte à Bulles, collection Contre-Jour, et c'est à 15 euros. Voilà. Ben, on fait quoi ?
Un petit peu de musique ?
Allez, musique. Un peu électro-expérimental, comme ça.
Ouais.
Allez. Et on est toujours à la causerie sur Radio Canu, sur 102.2 ou sur radiocanu.org. Et on vient de s'écouter un très bon morceau, en tout cas, c'est mon avis et j'ai le droit de le dire. C'était Movement de Holly Herndon. Allez voir ses clips et tout. Enfin, c'est, le clip de cette chanson est très joli.
On essaiera de penser de mettre le lien YouTube pour voir le clip parce que vraiment il est très très beau.
Ouais, ouais, et puis même tous ses clips sont assez. Ouais. Artistique, dirons-nous.
Ouais. Bah là, c'est deux danseurs asiatiques, un homme et une femme, et c'est le mouvement, quoi. Ouais. C'est vraiment très, très impressionnant.
C'est très joli. Fab, je crois que tu vas nous parler de gens dont on entend souvent parler, en fait.
Oui, c'est ce qu'on
entend même souvent parler, d'ailleurs.
C'est ce qui m'embête un peu, mais je suis un peu obligé d'en parler pour pouvoir expliquer pourquoi j'en parle. Donc, c'est voilà. Une fois qu'on a dit ça, on a tout dit. Merci, bonne soirée. Non, en fait, je vais vous parler des Zemmour et compagnie, comme j'ai dit. Qu'on entend et qu'on voit beaucoup. Donc par exemple, Monsieur Zemmour, fasciste en chef, a donc eu le droit, parce qu'il sort un joli petit livre, bien facho lui aussi le livre, à 47 émissions de télévision et de radio ces trois dernières semaines. Donc vous faites le calcul, ça fait un peu plus de 10 émissions, 12 émissions en plus, 3 semaines, ça fait même 16 émissions par semaine, ce qui est pas mal hein, quand même.
C'est un bon rythme.
Je trouve qu'en termes de rythme de
visibilité... Ah bah si tous les auteurs avaient le droit à 47 émissions par semaine...
Et donc ce qui est drôle, c'est que cet homme continue à se présenter comme quelqu'un qui serait blacklisté de la République et qui n'aurait pas le droit de s'exprimer. Il faut savoir qu'il a sa propre émission, hein, Zemmour et Nolo sur Paris Première, qu'il intervient sur iTélé aussi dans un débat, et qu'accessoirement il a donc fait 47 émissions en 3 semaines. Donc moi je trouve pour quelqu'un qui est blacklisté, on le voit et on l'entend beaucoup.
Ouais, mais c'est dur. Hein.
Mais ce qui m'intéresse dans ce qui se passe, c'est qu'en ce moment on invite énormément de réactionnaires sur les plateaux. Alors ça va, c'est Zemmour, c'est Finkielkraut, c'est Frigitte Bardot qui veut maintenant qu'on l'appelle Valérie Tellem. Non, je crois que c'est ça ou autre comme ça.
Si, je crois que c'est ça.
Ouais, de son vrai nom. C'est Christine Boutin, c'est Philippe de Villiers, et ces personnes-là, on les invite énormément. Ils sont dans beaucoup de plateaux, et notamment dans tout ce qu'on appelle les émissions d'infotainment. Alors l'infotainment, c'est un mélange entre information et divertissement.
C'est ça.
Entertainment en anglais. Et ben par exemple, c'est Le Grand Journal sur Canal+, c'est On n'est pas couché sur France 2, c'est à vous sur... non, comment c'est ce truc où ils mangent là
Je crois que c'est ça, c'est ça.
Ouais, c'est à vous sur France 5, donc c'est des émissions qui mélangent en fait les styles. Et le problème de ces émissions, c'est qu'elles sont devenues les émissions préférées des Français. Non, c'est dans l'air, c'est ce qu'il y a avant, c'est le débat de droite, et après c'est à vous, c'est le repas de droite aussi.
Mais c'est autour d'un repas.
C'est autour d'un repas. Et en fait, non, mais en fait, c'est pour vous expliquer, c'est que c'est des émissions qui sont devenues les émissions préférées des Français. Hein, il faut savoir que dans toutes les enquêtes sur la télévision, elles arrivent en tête des émissions que les gens aiment regarder pour s'instruire. Et c'est là que ça devient un problème. Parce que dans ces émissions, on ne fait pas vraiment le travail journalistique nécessaire. Alors, je prends un exemple, vous pouvez aller le vérifier sur YouTube ou sur Dailymotion ou sur les trucs de rediffusion de télévision. Éric Zemmour est passé dans l'émission de Ruquier, donc, qui s'appelle On n'est pas couché. Il a parlé pendant une heure, ce qui est extrêmement long. Hein, quand vous réfléchissez, une heure d'intervention, c'est très très long. Donc, il a eu une heure de parole libre sur le service public. Alors, moi, je ne suis pas pour la censure, donc très bien qu'il y ait de la parole libre, il n'y a aucun problème. Le vrai souci, c'est qu'il a, dans cette émission, asséné des soi-disant vérités qui sont assez énormes. Alors, je vais vite glisser sur ce dont je voulais parler. C'est qu'il a asséné donc, des vérités. Donc, il a dit que, par exemple, il y avait 12 millions d'étrangers en France, qu'il y avait 7 millions d'enfants étrangers de moins de 4 ans et que les mariages plus de 60% des mariages étaient des mariages mixtes. Mmh. Voilà, ça c'est ce qu'il a affirmé sur le plateau de On n'est pas couché, émission donc préparée hein, quand même, hein, parce que vous vous doutez bien qu'il y a des gens qui préparent l'émission, qu'il y a des journalistes en théorie qui sont censés vérifier quand même ce qui sont dans les livres des invités. Hein.
Oui, soi-disant.
Et il était bien sûr en face des fameux Émeric Caron et je ne sais plus le nom, Machin Salamé, je vais l'appeler comme ça parce que je sais son nom de famille mais je ne sais plus son prénom. Voilà, et il était passé le matin même chez Bourdin, vous savez, le fameux gars qui fait de la radio sur une autre radio concurrente de Radio Canu. Donc on ne dira pas son nom. Et du coup, face à ces trois personnes, Zemmour a tenu les mêmes propos. Et alors, étonnamment, si vous êtes un minimum logique, vous vous dites, il passe devant trois journalistes, il tient ces propos-là, si personne ne le reprend, c'est que ses propos sont vrais.
Bah, clairement.
Mais d'accord, hein, c'est la logique normalement du journal. Bah, sauf que le problème, c'est qu'heureusement, il y a un petit gars qui s'appelle Sébastien Lafargue, qui est un petit journaliste de France 2, qui fait qui est petit pigiste à France 2, voilà, qui pour une fois a fait un vrai travail de journaliste pour le 20h. Eh ben, il allait prendre ce que Zemmour affirmait et il allait tout simplement le vérifier. Et dans une chronique que j'ai trouvée, il souligne qu'il lui a fallu 7 minutes pour trouver que les 3 affirmations d'Éric Zemmour étaient fausses.
Bah, t'imagines bien que bon, RMC...
ils doivent pas avoir le temps.
France Télévisions, ils ont pas le temps, quoi.
Donc à la causerie, parce qu'on n'est pas chien, on va vous dire on va vous dire ce qui est faux et ce qui est en fait dans les chiffres officiels.
Oui, et c'est pas à la causerie qu'il a fait non plus.
Non, c'est Sébastien Lafargue, je le dis. Parce qu'on lui pique un peu son travail, mais c'est bien d'en parler. Ouais, parce
mais d'en parler, clairement.
Je trouve que c'est intéressant de voir quand un journaliste fait vraiment son travail de journaliste. Donc Zemmour, il claironne partout qu'il y a 12 millions d'étrangers en France, 5 millions d'adultes et 5 millions d'adultes et 7 millions d'enfants. Donc déjà, ça entretient le mythe de l'étranger qui fait beaucoup d'enfants.
Qui fait beaucoup d'enfants.
Vous comprenez le truc quand même, c'est ce qu'il y a derrière. Et ben donc, Sébastien Lafargue, il allait voir l'organisme quand même qui est chargé de compter les gens en France, qui s'appelle l'INSEE, hein, donc, et qui est censé de recenser les gens qui sont de nationalité française et ceux qui ne sont pas de nationalité française. Et ben l'INSEE dit, il y a un petit problème, c'est que non, il y a 3,7 millions d'étrangers en France. Et sur ces 3,7 millions, contrairement à ce qu'affirme M. Zemmour, il y en a 2,5 qui sont d'origine européenne. Alors c'est un peu embêtant parce que
il y a Zemmour
de 12 millions à 3,7.
Oui.
Voilà, dont 2,5 millions d'Européens, ce qui est logique vu que l'Europe est pour la liberté des de circulation des travailleurs, donc forcément c'est pas illogique. Alors ce qui est très drôle dans cette histoire là, c'est que Zemmour a quand même écrit un livre pour nous expliquer en quoi on allait plus être blanc et en quoi on allait tous être transformés en une espèce de, comme il dit, melting pot. Il a employé un mot assez pourri, mais bon voilà.
Ouais, mais je pense qu'il a dû dire à un moment donné féminisé.
Oui, et féminisé évidemment,
ouais,
parce que Zemmour est un masculin. Donc on continue sur les affirmations. Donc Zemmour affirmait qu'il y avait 7 millions d'enfants étrangers de moins de 4 ans. Alors ben pareil, hein, ils sont allés à l'INSEE et puis ben, ils ont tapé un petit peu sur le site de l'INSEE. Et en fait, il y a un petit problème, c'est qu'en fait il y a 800 000 naissances en France par an. Donc voilà. Par conséquent, le nombre d'enfants de moins de 4 ans en France est de 3,2 millions. Donc il est très difficile déjà qu'il y ait 7 millions d'enfants de moins de 4 ans qui soient d'origine étrangère, vu qu'il n'y a que 3,2 millions d'enfants de moins de 4 ans en France. Donc déjà ça pose problème. Et puis ben, c'est un petit peu ce que dit la journaliste, c'est que si vous raccrochez ça en fait à la donnée précédente qui est le nombre de personnes présentes sur le territoire, donc 3,7 millions de personnes présentes, en supposant qu'elles fassent tous un couple, on vous divise par deux et qu'ils fassent tous des enfants, vous ne pouvez pas arriver à 7 millions. C'est et bien. En fait, ben, il n'y a pas plus d'enfants d'enfants étrangers que d'étrangers à la façon Zemmour. Donc c'est une affirmation totalement fausse. Et c'est vérifiable en 2 minutes. Hein. Simplement faire des calculs. Et donc, il y avait l'affirmation finale de Zemmour qui disait, oulala, mais il y a chaque année 90 000 mariages mixtes en France. Donc c'est la majorité des mariages, soit 60% des mariages qui sont des mariages mixtes. Je vous rappelle que mariage mixte, c'est un Français, quelqu'un de nationalité française ou une Française, et quelqu'un qui n'est pas de nationalité française qui se marie. Okay. Eh ben le souci, et c'est là que ça devient marrant, c'est que en fait en France il y a que 200 000 mariages qui sont prononcés par an, hein, donc déjà au départ c'est un petit peu faux par rapport à ce que Zemmour avançait de 270 000. Alors comme dit le journaliste, à moins que Éric Zemmour ait pris le temps de refaire les livres de mairie et se rende compte qu'il y avait une erreur de 70 000, mais sinon en fait c'est 200 000 là, le chiffre. Voilà. Et puis ben le truc, c'est qu'en fait, il n'y a que 13% des mariages qui sont des mariages mixtes en France. Donc, entre un citoyen français ou une citoyenne française et un citoyen ou une citoyenne étrangère. Et en fait, donc, ça fait 26 000 mariages. Et sur ces 26 000 mariages, eh ben, en fait, il y en a 21 700 qui sont intracommunautaires, c'est-à-dire à l'intérieur de la communauté européenne. Donc, on voit bien quand même que Éric Zemmour agite des chiffres juste pour faire peur et pour faire croire à cette fameuse immigration de masse. Vous savez, le truc qui est très très avancé par Le Pen et compagnie, De Villiers ou autre. Et qu'en fait, bah, il se sert de la peur pour faire avancer ses idées fascistes, ni plus ni moins. Mais ce qui est intéressant, c'est que moi j'ai pris cet exercice-là pour démontrer quelque chose qui est quand même flippant. C'est-à-dire qu'on invite ces gens pour faire le buzz, parce qu'on sait que ça va faire du monde devant la télé, qu'en plus ils vont dire des phrases... qui seront reprises, qui vont être coupées, qu'on va diffuser sur Facebook, les réseaux sociaux, Twitter et compagnie, qui vont être repris dans les zappings, donc qu'on va commenter et encore commenter, ce qui fait de la publicité aux émissions concernées. Mais le souci, c'est que ces émissions ne font pas le minimum qu'elles devraient faire, c'est-à-dire un travail journalistique. Parce que dans Infotainment, Il y a info quand même. Hein.
Ouais, mais aussi et... beaucoup de Tainman.
Ouais, mais c'est-à-dire que c'est une notion qui vient des États-Unis et aux États-Unis, ils séparent, ils essayent de séparer au mieux la partie information qui est tenue par des journalistes et la partie entertainment qui, elle, est par contre une partie à part dans l'émission. Et on arrive assez facilement dans les émissions américaines à faire la séparation entre le moment où le moment est sérieux et le moment où on se détend. D'ailleurs, c'est le fameux. C'est la fameuse Obama joke, ça s'appelle comme ça aux États-Unis, où en fait, dans une interview, d'un seul coup, Barack Obama a dit « Ah, c'est une blague !» Et le journaliste lui a dit « Ben non, en fait, je suis très sérieux, ma question est sérieuse, monsieur le Président. » Et il s'est retrouvé coincé dans l'idée que ben, il pensait venir dans une émission où « Oula, on allait faire pouette-pouette !» Et le gars en face lui demandait « Et pourquoi l'Obamacare ne couvre que 4 millions d'Américains sur 300 millions ?» Vous voyez, c'est une question très de base, mais quand même bien. Donc voilà, c'est pour dire que Comme le travail journalistique n'est pas fait, alors qu'il est très simple à faire, eh ben on laisse parler. Et cette idée-là passe, parce qu'au bout d'un moment, les gens se disent bah « Si le gars il arrive à le dire sur RMC, oh merde, je le dis, sur France 2, sur TF1, et puis quand il est invité sur France Inter, il dit la même chose. » Bon, il ne viendra jamais à Radio Canu, donc vous inquiétez pas. Mais je veux dire, les gens finissent par se dire, et c'est logique, bah donc ce qu'il dit est vrai. Parce que si personne ne le contredit nulle part, eh ben ça veut dire que ce qu'il affirme est vrai.
Ah bah oui.
Et c'est tout le problème de ce qui se passe en ce moment. C'est que les idées fascistes de Finkielkraut, de Zemmour, de Frigide Barjot, de Boutin, de Devilliers passent parce que personne ne fait le travail journalistique en face de dire « Non mais attendez, vous racontez n'importe quoi. » Quand Zemmour écrit un livre, qui aujourd'hui est le livre le plus vendu en France, il a battu Valérie Trierweiler quand même, il en vend 5000 par jour. Zemmour vend 5000 livres par jour, c'est énorme.
C'est
en termes d'édition, c'est quelque chose qui dépasse l'entendement par rapport aux ventes habituelles de livres. Juste pour votre info, la sortie de Game of Thrones, qui est le truc le plus attendu, n'arrive pas aux chiffres de Zemmour en ce moment quand même. Il faut vous rendre compte de ça.
Ouais,
quoi.
Ouais.
Donc c'est quand même très inquiétant. Et il vend 5000 livres par jour et personne ne le contredit sur le livre. C'est-à-dire qu'on le laisse parler au nom de la liberté d'expression.
Mais c'est ça, oui.
Mais la liberté d'expression, c'est aussi la liberté de contradiction. Et qu'en fait, aujourd'hui, on fait une sorte de liberté d'expression fausse. C'est pas de la liberté d'expression, ce qu'on fait avec ces gens-là, c'est on fait de la propagande. Mmh. On leur laisse un vrai boulevard où ils peuvent s'exprimer pendant des heures sans que personne ne les contredise. Mais ça s'appelle la propagande.
C'est ça, ou alors on va tout de suite demander l'interdiction d'eux.
Oui.
C'est-à-dire que, enfin, on fuit
tout débat, en fait.
Tout débat, au final.
Et ce serait bien plus intéressant de démonter leurs arguments par des débats simples en disant, mais attendez, expliquez-moi comment vous pouvez trouver 12 millions d'étrangers en France, alors que l'INSEE en trouve que 3,7 et encore en comptant les Européens parce qu'on est bien obligé de les compter, quoi.
Mais
c'est toute cette notion-là. Et là où je voulais quand même souligner quelque chose qui, moi, m'interpelle vraiment de façon violente, on va dire, parce que c'est à un moment donné, ça touche aussi dans la chair, parce que de laisser certains mots se dire à la télévision ou à la radio, ça peut blesser les gens, et ça, c'est une réalité. C'est que comme rien n'est fait pour les stopper, eh ben, c'est que finalement, on le fait, mais on le fait sur les gens, les petites gens. C'est-à-dire qu'en fait, dans ces émissions-là, si vous avez un syndicaliste qui est invité parce que sa boîte est en train de faire béant, ben, on va lui demander de parler comme Éric Zemmour. Éric Zemmour, c'est un super bon orateur. Sauf que le syndicaliste qui est dans la boîte ferme, c'est pas son métier à lui. Hein. Donc il va venir sur le plateau, puis il va faire des petites erreurs, il va bafouiller, il va peut-être parfois s'énerver parce qu'il est en train de perdre son boulot, il est en train de perdre ce qui lui permet de bouffer, il va peut-être perdre sa maison demain. Et là, par contre, on va lui taper sur la gueule. Là, par contre, il va y avoir une sorte de chien de garde médiatique. Je vous renvoie au nouveau chien de garde et vous verrez que c'est très, très marqué depuis des années. Et ça fait une quinzaine d'années que finalement, si vous êtes réactionnaire et que vous parlez bien, bah, personne ne vous contredira sur les plateaux. Par contre, si vous êtes un petit gens qui veut juste défendre son beefsteak et venir expliquer en quoi son patron est un vrai salopard, bah là par contre on va vous taper sur la gueule en vous disant que vous connaissez pas tous les grands chiffres de l'économie, que vous avez pas étudié vos dossiers et que quand même vous avez été un petit peu violent quand vous avez lancé du papier toilette sur votre directeur. Vous voyez, c'est ça le problème, c'est que la télévision, la radio aujourd'hui servent avant tout d'outils réactionnaires en majorité. C'est pour ça qu'il est important que Radio Canu existe aussi. Mais on voit que les grandes radios et les radios de masse, en fait, finalement, ont un poids réactionnaire. Dans l'histoire, il y a eu une période très très bien marquée de l'histoire qui a servi à ça. C'est les années 30. Alors attention, quand je dis ça, on va me dire « Ah, il va parler d'Hitler, machin, point Godwin ». Non, 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 je parle bien des années 30 en France, où la presse était très pro-patronale et tapait sur le salariat en permanence, et où des gens comme Zemmour existaient déjà à l'époque et faisaient la une des journaux parce qu'ils parlaient bien. Et puis parce que il tapait sur ces sales étrangers qui étaient les Polonais à l'époque, qui venaient manger le pain des Français, vous voyez. Donc ça n'a pas tellement changé, c'est-à-dire que c'est une presse patronale, réactionnaire et de bon ton, servie à la louche et au litre, voire même au kilo en ce moment. Donc gardez votre esprit critique, allumez vos cerveaux, posez-vous des questions. Quand quelqu'un dit un chiffre dans un débat, relevez-le, vérifiez-le sur internet, c'est pas compliqué. Vérifiez le chiffre qui est donné et vous verrez que vous allez découvrir que souvent on vous prend vraiment pour des imbéciles. Musique. Pardon, la technique.
Nous allons chanter une chanson contre les fascistes. Merci parfaitement, monsieur. Quand les cadres de la télé, des barbures turbanées,
on aura toute cette bande de mots que tous ils n'auront pas, ils l'auront.
Ils veulent même pas la liberté, tout ce qu'ils veulent c'est les pognons.
Et puis aussi les gonzesses, tout le reste pas les traditions.
Malheureusement les dictatures, surtout quand elles sont prolongées,
même si elles créent des réactions, rendant les gens très 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 cons.
Enfin ils sont libres, c'est pour mieux se foutre sur la gueule.
On ne veut pas d'annulation, et si ou religion.
Et les vaches au manchier,
les vaches au manchier.
Les vaches au manchier,
les vaches au manchier,
les vaches au manchier,
les vaches au manchier.
Vous êtes
sûr? Ouah! À moi! Ouah!
Qu'il faut voir.
Je reprends ma pancarte.
Les fachos font chier. C'est pas facile à dire et à chanter. Hein.
Les fachos font chier.
Ouais. Et c'est issu de Les Trois Bédos, qui était une sorte de comédie musicale, j'allais dire ça comme ça, un peu punk. Et vous pouvez trouver tout ça sur internet. Vous tapez Les Trois, comme étroit, quelque chose d'étroit. Hein. Et Bédo, B-E-D-O. Et voilà, il y a plein de comme un bédo. Et il y a plein de chansons comme ça, c'est très très drôle. Et alors en plus, ils ont joué sur les clichés, ils sont habillés de façon très traditionnelle pour montrer que voilà, c'est pas obligé d'être habillé traditionnel et d'être réactionnaire. Voilà.
C'est pas faux.
Bah oui.
Alors.
Et Jean-Yves, tu voulais enchaîner sur un court-métrage.
Oui, c'est ça, court-métrage, donc court sujet. C'est pas mal, hein.
C'est bien.
En fait, non, je voulais vous parler en fait et vous inviter à aller voir sur internet. Et oui, le court métrage de Jennifer Malmquist, j'espère que c'est juste, qui s'appelle Par Suffocation ou By Suffocation, que vous pouvez trouver sur Arte plus 7. Vous tapez Par Suffocation court métrage dans votre moteur de recherche et vous devriez le trouver. Et donc en fait. Déjà pour faire vite fait sur la réalisatrice en fait, Jennifer Malmquist, qui est donc suédoise, elle a fait des études en sociaux, des histoires de l'art, de la philo, de la musique, et au final d'un coup elle a eu un peu une envie de faire du cinéma parce qu'elle se sentait pas forcément représentée dans le cinéma qu'elle voyait, elle-même étant lesbienne, elle s'est dit... Je vois que du cinéma d'hétéro, quoi. Enfin, à un moment donné, il faut peut-être aussi que nous, on fasse notre propre cinéma. Et donc, en fait, c'est l'homosexualité sous tous ses visages, hein. Donc, ce court-métrage de 7 minutes, donc, par suffocation, c'est quand le système, en fait, supplante l'humain. Et c'est donc, pendant 7 minutes, vous assistez, en fait, à une exécution par pendaison. C'est totalement, il n'y a pas de dialogue.
C'est ouais, c'est muet. Ouais.
C'est muet. Il y a le bruit de la machine qui descend les cordes, qui les remonte. Il y a le bruit de.
Tout est basé sur des acteurs formidables qui expriment par leurs yeux, par les expressions, parce qu'ils sont en fait. Alors il y a le jeune bourreau qui est là parce que voilà, c'est un bleu comme on dit dans l'armée, c'est et ça. Puis qu'on lui demande d'être celui qui va monter la machine pour pendre les gens. Il y a le bourreau expérimenté qui regarde sa montre parce que
c'est long, hein.
Voilà. Et puis il y a le couple. Oui. Et qui a une relation magnifique et
deux jeunes amoureux,
voilà, qui, enfin, c'est vraiment à voir.
Oui, c'est 7 minutes, c'est condensé, il n'y a pas de dialogue. Et puis vous en sortez en vous disant waouh, putain, faut pas arrêter, quoi, faut qu'on continue, parce qu'au final, la réalité, encore une fois, et la réponse internationaliste, en tout cas, à laquelle moi j'adhère, effectivement, il faut qu'on prenne toutes ces choses-là en compte, et tant que ces cas-là continueront d'exister, il faut qu'on apporte notre soutien en parlant, en le dénonçant, en soutenant sous différentes formes et tout ça, quoi. En tout cas,
c'est la position de toute façon de la réalisatrice qui, dans ce court-métrage, ne vise pas spécialement un pays, parce que d'ailleurs vous aurez dû, on ne sait pas vraiment où
ça se
passe.
Il n'y a pas de régime clairement désigné,
voilà,
hein.
Mais qui vise en fait un état d'esprit. C'est ça qu'elle dénonce, en fait, au fond.
Oui, ouais. Clairement.
Et c'est très intéressant.
7 minutes intenses, que je vous conseille, ouais, et pourtant c'est rare, moi, qui parle de cinéma. Oui. Bon, c'est parce que ça doit être court, en fait, ça doit me parler. Et donc, je vous rappelle, en fait, c'est donc le court-métrage, s'appelle Par Suffocation. Vous le retrouvez sur le site d'Arte plus 7 et c'est encore dispo, donc une semaine au total, et c'est passé vendredi soir. Et la réalisatrice Jennifer Malmquist, voilà, c'est son nom. Et sur Arte plus 7, vous pouvez retrouver aussi, pardon, un deuxième court-métrage qu'elle a réalisé qui s'appelle Bon anniversaire, je crois, et qui raconte l'histoire d'un couple de lesbiennes. Je vous laisse regarder. À la rigueur, franchement, ce serait carrément sympa si vous le regardez. Faites des retours.
Ouais,
ça peut être intéressant.
C'est vraiment, je trouve bien d'avoir le comment on dit en anglais, le feedback des gens, enfin le retour.
Ouais, ça peut être intéressant, mais vraiment, ouais, parce que je trouve en plus c'est un cinéma vraiment particulier. Oui. Enfin, en tout cas, à mes yeux, c'est vraiment un cinéma particulier. Et donc, je trouve que ça peut être intéressant sur des choses comme ça.
Mais je crachais beaucoup sur la télé dans mon sujet précédent, mais je tiens quand même à dire que l'émission Court-Circuit d'Arte, c'est juste magnifique pour les courts-métrages.
Oui.
Voilà. Ouais. Comme quoi, il n'y a pas que de la merde à la télé, on peut aussi sélectionner ce qu'on regarde.
Oui, c'est ça, être acteur sur le fait de choisir ce qu'on regarde.
Bah oui.
Bref, et on va continuer parce qu'on fait deux petits sujets. Donc Fab, toi tu vas nous parler de l'existence.
Oui, qui a eu lieu hier, hein, pour Max du Petit Bazar, nous sommes le 19, donc l'existence c'était hier, c'était le 18 samedi. Et donc voilà, c'était pour vous dire que cette année il y a eu 5000 personnes à l'existence, donc c'est une très belle année à Paris, parce que c'est que à Paris, l'existence pour l'instant. J'espère qu'un jour ce sera comme pour les marches des fiertés dans toutes les grandes villes de France, parce que je trouve que c'est un sujet important. Donc pour rappel, l'existence, ce sont les revendications autour de la transidentité ou du transgenre, de gens qui demandent des droits, c'est-à-dire le droit de pouvoir changer de sexe, le droit de pouvoir changer de papier, le droit de ne pas être emmerdé, le droit de pouvoir travailler, le droit de ne pas être obligé de se prostituer parce qu'ils n'ont pas autre chose de possible, comme je l'ai lu sur une pancarte. Voilà, je trouve que c'est très intéressant de soutenir et de suivre ce qui se fait autour de cette lutte. Et moi, je voulais juste souligner quand même qu'il y a eu une petite remarque qui a été faite. Alors, tout le monde se félicite que cette année, il y a eu plus de monde que d'habitude, on va dire ça comme ça, et que ça ait bien marché, que les médias aient repris, et que c'est là quand même la 18e année. Hein. Donc, c'est bien au bout de 18 ans de se dire, tiens, il y a des gens qui marchent à Paris en octobre, et c'est pourquoi ils marchent. Donc, voilà. Donc, c'est plutôt positif. Par contre, passe un phénomène qu'on voit souvent, c'est-à-dire que bah, quand des associations un petit peu organisées arrivent en soutien de d'associations qui le sont un peu moins, on va dire, ou du moins qui n'ont pas l'habitude des médias ou d'avoir un rapport aux médias, eh ben on a vu énormément de gens bah, qui n'étaient pas vraiment trans du tout, hein, ni transidentitaires, ni transsexuels, qui parlaient au nom de l'existence, parce qu'ils étaient là, et puis les médias les prenaient, et puis ben, les journalistes les connaissaient. C'était « Ah tiens, lui c'est le porte-parole de telle association LGBT ». Sauf que ben, ce serait bien que ces personnes-là aient le réflexe, comme le disait une personne transsexuelle à la radio, que qu'elle puisse dire « Excusez-moi, mais c'est pas mon tour de parler, allez plutôt voir cette personne-là, parce qu'elle a quelque chose à vous dire », plutôt que de faire un discours très consensuel, en disant on est là pour les soutenir parce qu'on les aime beaucoup. C'est important hein, de le dire, mais je pense qu'il y a tellement peu d'espace médiatique que c'est con de le bouffer juste pour dire on est là pour les soutenir et que c'est mieux que ce soit les revendications qui passent en premier quand
Au final, voilà. C'est cool qu'il y ait du monde autour qui soutienne, mais c'est cool de laisser la parole aux premiers et premières concernées en fait. Hein,
bah, c'est un petit peu... Pour faire un parallèle, c'est un petit peu comme quand vous avez une lutte dans une usine, vous savez, puis que vous avez 900 salariés en grève devant l'usine, et puis que le micro il est tendu à Mélenchon.
C'est ça. Ah,
ça fait très plaisir, hein, mais sauf que ce serait mieux de le tendre aux ouvriers en grève quand même, qui vous expliquent pourquoi ils le sont et puis ce qu'ils défendent, plutôt que le politique qui est venu les soutenir. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est toujours ça, quoi, le problème médiatique.
Ouais, pas voler la parole de l'autre. Quoi.
Mais quand même, c'est juste pour dire que c'était très bien, qu'il y a eu beaucoup de monde et qu'on espère que dans les années à venir, il y ait un peu plus d'existence un peu partout en France et pas uniquement à Paris. Et que voilà. Et je rappellerai juste au passage. Parce que quand même, aujourd'hui, au nom d'une idéologie réactionnaire qui fait peur à un gouvernement ultralibéral de gauche, les droits des trans sont plus qu'oubliés, mais je voudrais juste rappeler que c'est une des populations où on se suicide le plus, et que normalement, quand on est un peu humain, on se dit, si les gens se suicident, c'est qu'il y a un réel problème, hein, un réel problème de fond, et on essaye de résoudre un problème qui, franchement, va pas révolutionner la face du monde si on le résolvait.
Mais c'est tout ça qui est terrifiant, quoi, parce qu'au final, c'est juste le droit à l'autodétermination, c'est-à-dire qu'on se détermine comme on le veut et enfin comme on le ressent et tout ça et que je comprends enfin
si puis qu'on mette l'état hors de nos culottes
mais c'est ça quoi enfin, qu'est-ce qu'on en a
non mais c'est vrai non mais je veux dire voilà enfin je veux dire il y a un moment donné
c'est terrible voilà. Bon on va arrêter de s'énerver et on va passer du bon son allez. We'll be right back. Qu'est-ce qui se passe à la technique?
Je crois que ça n'avait pas voulu ce son à la fin, mais c'est pas grave.
Ah ouais, ok, excuse-moi. Tout de suite, t'as vu, je t'ai incriminé direct, quoi. Oh, c'est sur moi.
C'est sur le CD, je crois.
Mais oui, je crois, en fait.
Mais ce serait pas la causerie?
Mais si, c'est la causerie, c'est toujours sur Radio Canu, 102.2, ou sur radiocanu.org.
Ouais,
et puis, on se quitte normalement dans 3 minutes, hein, mais vu que l'émission suivante n'est pas là...
On va déborder.
On risque de déborder un petit peu, en tout cas, pour faire les choses au mieux. Alors déjà, rappelez que ce qu'on vient d'écouter, c'était Bye Bye Macadam, de Ron, ou Ronnie, je sais pas comment... En tout cas, ça s'écrit R-O-N-E. Donc, ceux qui sont in se foutront de ma gueule, et ceux qui sont out s'en foutent. Et moi, je m'en fous. Donc voilà, on va passer vite fait à quelques brèves quand même, à quelques rendez-vous militants ou pas d'ailleurs. Et voilà. Donc, je voulais vous parler de l'émission qui aura lieu mardi 21 octobre de 20h à 21h sur l'antenne de Radio Canu, qui sera une émission autour du mois de novembre. Le mois On s'installe partout, avec des spectacles, des conférences, des projections, de la poésie, etc. pendant tout le mois de novembre. Et c'est organisé par les amis de la Griffe et plein d'autres orgas qu'on aura le plaisir de recevoir mardi.
Peut-être pas toutes les orgas, mais une bonne partie.
Une bonne partie en tout cas, je pense.
C'est une super liste qu'ils nous ont donné là.
Ouais. Donc voilà, vous aurez le programme un petit peu plus en détail mardi de 20h à 21h sur l'antenne de Radio Canu.
Ce sera animé par toi et Laurent.
C'est ça.
Normalement.
Mais ça, c'était pour
Laurent de Noise Pollution, pour ceux qui ne savent pas.
Et le grand info.
Aka le grand timonier, pour ceux qui connaissent Noise Pollution.
C'est ça. Toi, tu avais une petite brève musicale.
J'ai surtout un grand plaisir à l'annoncer. Pour ceux qui suivent la causerie depuis longtemps,
longtemps,
parce que je crois que c'était la cinquième causerie qu'elle est venue, cinquième ou sixième causerie. Vous vous souvenez sûrement d'Adeline, aka la de Doge Bleu, qui était venue jouer en direct dans l'émission.
Yes.
Eh bien, figurez-vous qu'Adeline se produit jeudi soir, donc ce jeudi, le 23 à 23h, c'est facile à retenir, jeudi 23 à 23h, au Hit Bar qui est Monté Saint-Sébastien. Et d'ailleurs, on fait coucou à Xav et Chris. Et donc, n'hésitons quand même pas à aller voir Adeline parce que ça vaut le coup. Et que pour votre info, elle a aussi un blog. Vous tapez, cherchez la Dodoche Bleue, où elle a mis une espèce d'album ou de mixtape, je sais pas comment dire, de plusieurs titres. C'est très, très bon. Et on va le dire là, Adeline, Dodoche Bleue, tu reviens quand tu veux jouer dans la causerie. Voilà, parce que ça fait plaisir. Mais donc, allez la voir, c'est jeudi 23 à 23h, Montée Saint-Sébastien, au 8 bar.
Yes.
Voilà. Entrée gratuite, hein, pour info.
Ouais. Et la semaine suivante, le 30, alors c'est encore un peu loin, vous allez me dire tout ça, mais il faut se rappeler les choses très importantes. Non, en fait, c'est le jeudi 30, à partir de 19h,
c'est bien ça.
Non, si, c'est ça, dès 19h, au Cafeton, 44 rue Burdeau, à Lyon, dans le premier arrondissement, on vous donne rendez-vous pour... pour discuter autour de Canu et surtout autour de certains de verres, en fait, avec de la boisson.
Avec
ça,
de la boisson
ça.
Dedans.
Ah, c'est ça, je dis n'importe quoi.
Mais on a compris, en fait, c'est une sorte d'apéro.
Voilà, c'est ça. C'est ça, c'est un apéro, en fait.
Ouais, mais apéro qui peut se prolonger, quoi.
C'est ça. Donc, ça commence à 19h. Vous devriez y rencontrer des animateurs et des animatrices qu'on espère les plus nombreux et nombreuses. Et puis, ce sera
L'idée, c'est d'échanger autour de Canu. Ça nous parle à la causerie de se causer.
Bah oui.
Donc viens causer. Alors nous on sera là un peu tard hein, normalement, mais on sera là.
Mais oui, mais c'est pas grave, et même si on n'y est pas, il y a plein d'autres gens.
Non,
et
mais c'est au cas où il y a des auditeurs qui auraient l'idée de se dire tiens, on va aller les voir, et en fait, faut venir un peu tard.
On se verra une autre fois. Vous savez.
D'ailleurs, on relance l'appel. Vous savez que la causerie, si vous arrivez 5-10 minutes avant l'émission, c'est ouvert à tout le monde. Vous pouvez venir assister à l'émission. Donc, n'hésitez pas. Voilà, venez. Amenez à manger. Ça va bien.
Manger.
Pourquoi ? Ça va.
Enfin bon. Et donc.
Oh, c'est la causerie, quand même.
C'est vrai. Et toi, tu voulais. On va parler justement de la soirée qui est organisée. Elle est rattachée directement à ce dont tu vas nous parler tout de suite.
Radio Canu. Faites un appel aux dons. Voilà, alors moi je me rends compte que j'écris toujours appel aux dons au pluriel et qu'a priori c'est son pluriel. Mais bon, c'est pas grave.
Très bien, super. Merci pour cette.
Non, mais bon, ce dimanche c'est 23h, donc.
D'accord.
Je tiens à préciser des choses que je fais régulièrement et qui n'ont pas lieu d'être. Pardon, excusez-moi les auditeurs et les auditrices, je vous ai un peu perdu. Donc, Radio Canu fait un appel aux dons parce que vous le savez, nous sommes locataires de notre local et notre loyer a pris 20%. La dernière renégociation de loyer. Et alors, il y a des gens qui me disent, mais comment c'est possible tout ça, parce qu'on signe des baux sur X temps. En fait, à Canu, on a un loyer un peu particulier qui est ni un loyer d'habitation, ni un loyer commercial, qui est un truc entre les deux qu'on renégocie régulièrement, et a priori on les renégocie tous les deux ans. Donc là, c'est ce qui a été négocié cette fois-ci avec une augmentation de loyer de 20%. Donc on se dit que dans deux ans, c'est-à-dire en 2016, on risque d'avoir une renégociation qui fait monter le loyer encore plus haut. Et le problème, c'est que notre subvention adorée, le FSER, le Fonds au soutien à l'émission radiophonique, donné et inventé par des gouvernements de gauche et donné aujourd'hui par un gouvernement de gauche qui ne donne plus que dalle, donc c'est-à-dire que c'est en stagnation, voire en baisse chaque année, parce que vu que ça ne suit même pas l'inflation, c'est en baisse en réalité chaque année. Et donc, on se retrouve un petit peu limité en termes de moyens et ça peut impacter assez rapidement la radio et faire malheureusement en sorte que nous disparaissions, et c'est ce que nous voulons éviter. Et pour l'éviter, je l'évite au-dessus de ma table ou de ma chaise, mais non, en fait, pour éviter que nous soyons virés.
Bon ben, je te laisse les clés. Hein.
Non, mais je vais...
Nous, on se casse.
Pardon, je suis fatigué.
Bah alors, vas-y.
Non, voilà, donc pour éviter que Canu ne vienne à disparaître, on fait appel à vous, amis auditrices et auditeurs, pour que vous nous fassiez des dons, des petits sous, que vous envoyez du blé, du pèse, tout ça. Très clairement, on prend du très très petit don au très très gros don, mais si vous avez des gens qui ont des très très gros dons, des preneurs, et même à la limite, si des gens ont un local sur Lyon ou Villeurbanne qui voudraient céder à Radio Canu, contactez-nous aussi, parce que si vous avez des idées comme ça pour nous dire tiens, j'ai ça, et du coup, je vous le cède pour un prix modique, parce qu'on va être très clair dans ce cas-là, voilà. Et sinon, pour envoyer vos chèques, c'est à Radio Canu, boîte postale 1101, donc 1101, 69201, Lyon, CEDEX 01. Et non, je ne ferai pas la musique du petit bonhomme au début des films. Enfin bref. Et oui. Il n'y a que moi dans ma tête qui sait.
Ah, mais là, il n'y a presque que toi, en fait. Hein.
Et sinon, vous allez sur radiocanu.org et vous trouverez toutes les informations pour faire un don.
Oui, alors juste ce que je veux préciser, c'est si vous envoyez un chèque, admettons, et que vous voulez un petit papier.
Un reçu fiscal.
C'est ça, un reçu fiscal. Mettez un petit mot avec votre chèque, déjà, parce que ça fait plaisir d'avoir de vos mots, oui, c'est joli. Pardon, de vos mots en fait.
Et c'est moi qui déconne, tu vois.
Ouais, non, mais je sais pas, ça m'a. Enfin bon, bref. Ouais. Et de vos mots. Oh, mais je sais plus ce que je voulais dire.
Eh ben, c'est gentil d'avoir des mots.
Oui, voilà. Et donc, vous pouvez rajouter que vous voulez un reçu fiscal, comme ça.
On vous le renvoie.
On vous renvoie tout ça et vous n'aurez pas besoin de courir après. Et nous, on sera pas à la bourre non plus.
Et si vous voulez faire des dons en liquide, mais que vous avez besoin d'un reçu fiscal, c'est cool de passer pendant la prog entre 19 et 20 heures les mardis. C'est parce qu'il y a toujours quelqu'un et comme ça, on peut noter votre nom, votre adresse pour vous renvoyer un reçu, voilà.
C'est ça.
Voilà.
Et puis je crois
qu'on a tout dit.
Je crois bien. Et c'est ainsi que s'achève notre 72e causerie.
Et la semaine prochaine pour la 63e causerie. 73e causerie, retrouvée Emma, Fab et Jean-Yves. Et sûrement Clara à la technique, ou peut-être pas, on verra.
Donc, voilà. En tout cas, pardon, on est vraiment très fatigués.
Oui, mais c'est dimanche.
Je pense que le mieux pour vous, c'est de qu'on se casse, en fait. Donc on vous souhaite une bonne semaine.
Et si on restait encore une heure?
Non, en fait.
Ah non, on peut pas?
Non, non.
Moi, je peux pas, j'ai piscine, moi, en plus.
Oui, c'est ça.
Donc, il va pas.
C'est ça. Voilà, voilà. Et donc,
c'est grave.
On se donne rendez-vous dimanche prochain avec Emma, effectivement, comme tu disais, avec toute l'équipe au complet. On vous souhaite une bonne semaine. On rappelle peut-être vite fait le mail auquel vous pouvez nous joindre.
La causerie Canu, tout attaché, @gmail.com.
Et on a aussi toujours le blog sur lequel vous pouvez retrouver le podcast de cette émission.
Le plus tôt possible.
Le plus tôt possible. Et toutes les celles précédentes, les spéciales, les pas spéciales, etc. etc.
Voilà.
Sur le
blogs.
Voilà, blogs.radiocanu.org/la causerie.
Oh, tu y es presque arrivé en entier.
J'y suis arrivé. Et donc, on vous souhaite une bonne semaine.
Oui, et je vais peut-être dire avec quoi on se quitte.
Ah ouais, ça peut être
intéressant. Alors, comme on a une émission un peu plombante qui n'était pas très très joyeuse, mais c'est comme ça.
Mais c'est la vie.
C'est la vie, et nous, ça ne nous fait pas peur des fois de parler de choses pas forcément joyeuses, mais c'est comme ça. Et ben, on va se quitter avec un titre qui est plutôt... Ah, merci. Non. Il n'y avait pas ton rire encore.
Oui, c'est vrai.
On va se quitter avec un titre qui va vous surprendre, qui est de Miss Blue, qui est une personne qui reprend comment on
appelle ça. C'est pour toutes les massives.
Voilà, c'est pour toutes les massives. Et donc, elle reprend en dub, c'est ça? C'est comme ça que ça s'appelle? Moi, je suis une quiche en musique.
Moi, j'ai envie de te dire, elle le prend un peu en musique reggae, quoi.
Voilà, hein, bien. Et elle remélange ça avec de la musique traditionnelle bretonne, et ça s'appelle Bright's Roots, et c'est très très bon et très très drôle à écouter.
Ouais. Voilà. Bon courage.
Et bonne semaine, des bisous à tout le monde, des bisous à Emma, et à bientôt.
Au revoir, Clara.
Au revoir, Clara. Ah, tu n'as pas dit au revoir aux auditeurs.
Tu dis au revoir, attendez.
Au revoir.
Et voilà.
Allez, ciao, bonne semaine à toutes et à tous. Ciao.